Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
À 19 ans, Jean Gomis éprouvait la rage des grands timides à se dépasser. Une volonté féroce qui le mènera loin, très vite. Puisqu'à peine 10 ans plus tard, le jeune étudiant en fac de lettres est devenu photographe, et pas n'importe lequel, puisqu'il intègre l'agence Magnum à seulement 29 ans. Cette entrée dans le Saint-des-Saints, fondée notamment par Capa et Cartier-Bresson, est un véritable tremplin pour le photographe qui, depuis les années 70, se frotte au photojournalisme et voyage partout à l'étranger. Son œil documente le réel, traque l'homme, souvent dans sa plus grande solitude, mais c'est probablement dans la nature que Jean Gomis finit par trouver une forme d'apaisement. Deux fois lauréat du prix Nadar, Jean Gomis est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2016 et nous avons profité de sa présence à Paris pour l'inviter dans notre studio d'enregistrement. Jean Gomis, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir ici à l'Institut.
Bonjour. Donc.
Et à quelques rues de l'Institut, de l'autre côté du Pont des Arts, dans le 3e arrondissement, on peut actuellement admirer certaines de vos photos à la galerie Sit Down. L'exposition s'appelle « D'après nature ». C'est un projet qui prend une place assez singulière dans votre œuvre. Vous êtes connu pour un ton, assez documentaire. Et pourtant, dans ce dernier projet, c'est le paysage qui vous intéresse, le paysage silencieux où l'homme est absent. Pourquoi ce revirement? Les sujets vivants ont-ils fini par vous fatiguer?
Drôle de question. Non, les personnages ne me fatiguent pas, mais la densité, la foule, oui, me fatigue vite fait. J'arrive pas à me recueillir. C'est-à-dire lorsque, comme vous le dites, l'aspect reporter ou documentariste, puisque ce sont quand même des sujets qui durent 6, 8, 10 ans, le plus souvent depuis le début quasiment, je suis dans des sortes de huis clos. Alors il y a eu les prisons, il y a eu l'hôpital, ça a été le tout premier. Mais là, à ce moment-là, vous disiez que j'étais arrivé à l'agence Magnum en premier, mais en fait, la première agence dans laquelle j'étais, c'est-à-dire le premier collectif, c'était Gamma.
En 73.
Raymond Depardon m'avait invité à venir le rejoindre. J'étais encore à la fac à ce moment-là et dans un journal quotidien. Presque pour payer mes études, mais ce n'était pas tout à fait ça. Mais ça me donnait la vivacité dans ce journal d'écrire très vite.
Et vous écriviez aussi?
Ah oui, non, ben j'ai une licence de lettres. Voilà. Et en fait, le croisement, ou du moins la couche qui apparaît en ce moment concernant ce qu'on appellera la contemplation, c'est pas vraiment comme ça que je l'entends, mais je sais pas le mot qu'il faut dire. En fait, ça fait 20 ans, 10 ou 20 ans, mais au même moment, se chasse-croise là-dedans des incursions dans la réalité humaine, de l'espèce humaine, dans lequel je trouve... les correspondances que j'ai en tête, en fait, par rapport à ma réalité, moi-même étant la somme de tout ce que fait mon éducation, ma culture, le pays où je vis, le regard que j'ai sur les gens et que les gens ont sur leur propre pays, etc. Quoi.
Cette contemplation n'est pas nouvelle, elle vous a toujours habité pendant votre...
Oui, je ne vais pas insister sur le fait que quand j'étais petit, dès l'âge de 7 ans, 8 ans, j'étais constamment à la pêche.
La pêche.
Mais vraiment.
La pêche et donc les montagnes avec ce projet photographique d'après nature. Ce projet a pris naissance dans les montagnes du Piémont en Italie. Vous nous donnez à voir dans ces photos une beauté sauvage, brute, tout en noir et blanc. Et c'est un projet que vous avez entrepris il y a 20 ans, en 2003. Pourquoi il vous a fallu autant de temps pour mener à bout cette série?
D'abord, ça s'est fini quand même 10 ans plus tard. Là, l'exposition qui a lieu est la reprise d'une exposition qui avait été formidable à Jumièges, premièrement. Deuxièmement, c'est pas en fait la base de cette histoire-là. C'est pas du tout l'Italie du Piémont que j'ai appris à vraiment aimer. C'est dans l'Ariège.
Pays de votre enfance
D'une partie de mon enfance et d'une partie de ma famille aussi, dans le coin de Vic-de-Sault, Sorate, pour les gens qui connaissent, ils sauront. Et là, j'avais voulu effectivement, au même moment, je pense, où je faisais des choses un peu dures ailleurs, où de temps en temps, je partais un mois ou deux mois là-dedans pour être là, quoi, au milieu des éléments qui m'ont constitué quand j'étais petit. Et c'était très important. Et je ne trouvais pas bien ma trace. Et comme il se fait à chaque fois, de fil en aiguille, je me retrouve avec des gens qui se disent « Tiens, Jean Gomis aime bien la nature, aime bien ces coins-là, etc. » On a un truc formidable à lui proposer. Et ça, c'est important aussi, ne pas être prestataire de service. Ça, c'est la force aussi de Magnum. C'est, on sait que vous êtes sur certains sujets, que vous avez une attraction magnétique, littéralement, sur certains sujets, et on vous propose ou on vous propose des choses. Et là, on m'avait proposé de rejoindre les Jeux Olympiques, alors que je ne suis pas du tout sportif, pour illustrer la région des Jeux Olympiques d'hiver dans le Piémont italien. Et de fil en aiguille, je découvre les vallées transversales, petites vallées d'altitude qui vont d'est en ouest. Et je me rends compte d'abord qu'ils parlent le même occitan que dans l'Ariège. Alors l'Occitanie est important, même si je ne le parle pas, je l'entends un peu. Et que je rencontre des personnages, deux ou trois, qui sont assez fondamentaux pour moi et qui connaissaient l'Ariège, ou au moins autour des villages que je connais aussi bien que moi, moi petit. Ils le connaissaient mieux d'ailleurs. Et qui avait importé des chevaux d'Ariège en toute illégalité 20 ans auparavant, les chevaux de Mérens. Enfin bref, il y a un petit coup de foudre et c'est comme ça que les sujets arrivent.
Quand vous photographiez ces montagnes italiennes, vous voyez le paysage de votre enfance?
Oui, non. Je retrouve les coins d'ombre. Vous savez, alors il y a les grands paysages, le grand cosmos, etc. On est dans Giono, on a tout ça. Mais il y a aussi les coins d'ombre sous les fougères. Il y a tous ces microcosmes, tous ces petits univers que j'ai particulièrement fréquenté instinctivement quand j'étais enfant. Quand vous êtes à la pêche, vous êtes enfant, vous ne voyez pas la grande rivière, vous ne voyez pas le résultat des poissons. Enfin, vous voyez les poissons, c'est vos copains, les oiseaux, les choses comme ça. Et l'univers se rétrécit à la taille de cette table, c'est-à-dire un mètre sur 80 cm.
Une échelle miniature.
Oui, des super miniatures. Et le mélange de tout ça fait que j'aime bien me perdre dans ces univers, mais vraiment me perdre visuellement. C'est-à-dire que je suis ravi quand j'arrive plus à comprendre qu'est-ce que j'ai photographié. Ça dure 2-3 secondes. Mais parfois, je vois les gens, au moins dans l'exposition, pour une ou deux photos, qui sont perdus, qui disent « Mais attendez, c'est loin, c'est près, c'est quoi ?» Et là, pour moi, c'est gagné. On est sur la planète Mars.
Est-ce que vous parleriez d'abstraction ?
Non.
Quel mot vous mettriez derrière ?
Alors j'en ai un, mais je ne l'ai pas en tête tout de suite. C'est une sorte de... C'est pas stupéfaction, mais c'est quelque chose qui approche ça. C'est qu'est-ce que c'est ? Alors le qu'est-ce que c'est formidable.
Vous ne vous refusez aucune aire géographique. On a parlé de l'Italie. Il y a eu l'Iran aussi, oui. Qui était très important pour vous. Et puis la mer en Normandie, qui vous est très chère. Vous vivez d'ailleurs aujourd'hui à Fécamp. Est-ce que vous êtes tombé amoureux de ce lieu au cours de vos projets photographiques ?
Pour ce qui est de la mer de Normandie, non. Mais en fait, je suis natif de la côte atlantique. Donc je suis beaucoup plus sable que galet. Et mine de rien... Je connais quelques psychologues qui commencent à entreprendre une petite analyse là-dessus, en train de dire, tiens, s'il y a le peuple des galets, il y a le peuple des sables. Sensuellement, psychologiquement, humainement, c'est pas la même chose du tout.
Et vous avez photographié les deux, sable et galets ?
J'ai fait les deux, parce que effectivement, je suis souvent dans l'entre-deux pour trouver les choses. Je suis curieux, je suis sincèrement curieux, mais c'est pas construit, il n'y a pas de stratégie dans tout ça. Les choses viennent à la porte... ou viennent à ma connaissance, et je ne vais pas les prendre, je les reçois.
Et ce qui est certain, effectivement, c'est que vous êtes curieux. Il y a une appétence chez vous pour documenter le réel. Et si je comprends bien, c'est avant tout la vocation du journalisme qui vous habitait à vos tout débuts.
Alors là, non, là on ne parle que de moi, mais on ne pourrait pas. Bon, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Alors, racontez-nous.
Pensionnat religieux... De mon propre gré, d'ailleurs, c'est moi qui ai demandé à m'éloigner, justement. Je vivais à Rouen, là, et j'étais perdu dans Rouen. Moi, j'étais habitué à Aurillac, et à le Cantal, l'Ariège. Bon, bref, je ne dis pas que c'est l'enfant sauvage, mais c'est un enfant qui n'aime pas bien les grandes villes. Et lorsque je suis allé à Rouen, je ne savais pas trop quoi faire. J'aurais voulu être biologiste ou biologiste marin, par exemple, justement, des choses comme ça.
Déjà la mer, hein,
oui,
qui se présente.
Oui, mais la mer, en fait, pour moi, je vois bien, c'est la côte du sud-ouest. J'entends bien les sud-ouest. Il y a un distinguo avec le sud aussi.
Et le lien avec le journalisme, alors ?
Alors oui, vous faites bien de me recadrer, parce que quand je suis arrivé à Rouen, j'ai 19 ans, 20 ans, quand je sors, j'étais un peu tardif en études, et je veux, ça m'amuse de voir les fêtes populaires, les petites fêtes dans les villages, comment un maire tient son village, comment... Il y avait Franz-Olivier Gisbert à ce moment-là avec moi, il y avait 3 ou 4 personnes qui sont dans le milieu qu'on connaît ici à Paris, et c'était assez impressionnant parce qu'il y avait une direction qui était formidable, et moi ça m'ouvrait au monde des adultes, j'ai envie de dire, vraiment. Et je voyais la comédie humaine aussi, là. C'est-à-dire comment on faillote en fait le pouvoir.
Et là, vous commencez, alors non pas par l'agence Gamma, mais Viva. Vous avez fait un court, oui. Un court passage oui. dans l'agence Viva, et puis effectivement l'agence Gamma qui arrive très vite.
Et là, c'est allé à une vitesse très très rapide. Là. Ça, c'est fou. Mais c'est vrai que j'étais chargé comme de la dynamite. Je crois que ça continue, mais en mode plus masqué. Oui. Mais j'étais et effectivement, ils auraient été quelques-uns à repérer.
Vous avez été repéré par Raymond Depardon?
Alors, comment ça s'est passé? Non, c'est parce que moi je suis allé le voir un jour, j'étais passé par Zoom, il y avait Robert Pledge, Raymond Depardon m'avait repéré, Hugues Vassal qui est mort il n'y a pas longtemps, et il a bien... Il a compris, même quand je rencontre des jeunes photographes actuellement, et chaque année il y en a quoi une centaine, instinctivement on repère qui a l'ADN quoi, de la photographie. Et c'est pas sur des trucs de technique, des choses comme ça, c'est un comportement. Je l'ai pas totalement. Quoique, je le réfrène parce que ma culture... Non, oui, mais même à cette époque et même maintenant. Non, c'est des choses importantes qu'on repère. Il avait repéré ça, lui. C'était le moment où Gamma, l'agence Gamma, se scindait en deux. L'agence Sigma et l'agence Gamma. On n'est pas du tout dans la même perspective photographique actuellement.
Quelles sont les différences entre les deux?
C'était deux agences de presse mondiales. C'était la plateforme mondiale de la photographie et de reportage, disons. Mais très vite, j'ai commencé la série sur les hôpitaux qui a duré 2 ans. C'était totalement inhabituel dans des agences comme ça. Et je me faisais engueuler même, en disant « ça suffit, les hôpitaux, ça sert à rien, on ne le vend pas ». Je dis « mais attendez, c'est pas ça que je veux, moi ». D'ailleurs, je gagnais très très pauvrement ma vie à ce moment-là. Mais sincèrement, on était quelques-uns, je dormais dans les archives, Raymond, après j'ai vécu chez Raymond, et je le remercie encore, lui-même s'intéressait à savoir comment un gars un peu plus jeune que lui fonctionnait dans cette société. Non, il y a eu un chassé-croisé très enrichissant, mais très violent pour moi en même temps. Ouais. J'avais jamais pris l'avion de ma vie.
Et vous vous souvenez de votre premier
voyage? Oui, c'était en Angleterre, à Londres, pour aller faire... Il y avait une campagne électorale, durant laquelle j'avais fait une photographie qui avait fait le tour du monde, d'ailleurs.
Elle ressemble à quoi?
C'est William Heath, qui, au milieu de la foule, est un truc assez étonnant, mais il faut la voir, la photo, pour la décrire. Disons, il y a une vieille dame qui est devant lui, elle est tellement choquée. La spontanéité de l'image, là, c'est de l'image au millième de seconde, quoi. Et j'avais bien repéré que la situation montait et que c'était intéressant.
On essaiera de la retrouver.
Oui.
Durant toutes ces années, vous allez expérimenter l'art du cadrage, comme tout photographe, et cette question du cadrage m'interpelle. Prenons par exemple ce projet d'Après Nature que nous avons évoqué au début de l'interview. Vos photos soulignent la beauté brute de ces montagnes italiennes, mais est-ce qu'un paysage comme ça, est-ce qu'il est plus difficile à cadrer qu'un autre environnement plus habité, par exemple? Comment s'est posée la question du cadrage dans ce projet-là?
C'est pas tant le cadrage, c'est l'approche et c'est la 16 que vous avez en vous. C'est-à-dire, il ne faut pas se paniquer si pendant 2-3 jours, il ne se passe rien. Ça, c'est totalement interdit quand vous êtes en reportage.
Ça vous est déjà arrivé de ne pas prendre de photos?
De me dire, c'est pas bon, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, on est fondé sur des images assez classiques, ce que j'appelle la carte postale, ce qui est pas très gentil pour la carte postale, parce qu'il y en a des fois qui sont vraiment très bien. Mais en fait, on est quand même très préformaté. Il faut casser le formatage. Il faut, comme dit le Kérec, il faut se frotter les yeux au papier de verre et accepter d'être un peu dépressif à ces moments-là. Parce que vous dites, je suis rien. Qu'est-ce que c'est ce photographe que je crois être? Et en fait, tout d'un coup, les choses s'éclairent. Enfin, c'est clair. Tout d'un coup, les choses viennent à vous. Et là, c'est très impressionnant aussi. Vous êtes pour eux. Vous êtes, vous absorbez. Vous savez recevoir. Mais qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez que ce que vous avez déjà en vous, en partie.
Les images de votre enfance?
Non, pas seulement l'enfance. Il y a toute la culture. Par exemple, s'il s'agit de l'enfance, effectivement, le journal des voyages a été très important pour moi. Et pourtant, ce n'était pas la lecture de mes parents, c'était la lecture de mes grands-parents. C'est-à-dire, vous êtes influencé par Nanouk l'Esquimau, vous êtes influencé par le Napoléon d'Abel Gance qui revient. Moi, à 5 ans, je regardais ça sur une machine. Chris Marker faisait la même chose, d'ailleurs. Un pâté vidéo, c'est-à-dire, image par image, vous aviez un photogramme des grandes images de Napoléon d'Abel Gance. Mais ça a été immensément formateur pour moi. Et plein d'autres choses aussi qui vous impressionnent.
Vous dites que le cinéma, enfin, grâce à toutes les images que vous avez pu voir dans ces films, vous vous êtes constitué un stock d'images qui continue encore de vous
Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Alain Bergala. Et j'avoue,
critique de cinéma.
Oui, critique de cinéma, je le connais depuis très très longtemps, puisqu'il venait dans notre groupe, on avait un groupe de cinéastes au Havre, et on avait monté une très très belle unité de cinéma sur la comparaison avec Magnum, d'ailleurs. Et Alain, c'est lui qui m'a... On ne sait pas qui on est, si on est photographe. On n'est pas habile avec soi-même, ça c'est clair. On découvre au fur et à mesure ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est clair. Et là, Alain était adorable parce que quand j'ai vu le texte, j'ai été très ému, en fait. J'ai dit, mon Dieu, il dit vrai. Je ne le savais pas.
C'était très juste. Ça correspondait à ce...
En partie, oui, en très grande partie. Il ne faut pas non plus jouer, faire coller l'image qu'on vous balance sur vous. Il faut essayer d'être un peu lucide. Mais c'était assez important. Et lui disait, donc, qu'est-ce que vous me disiez, que vous me faisiez dire à moi ?
Alors, attendez, je vais retrouver la phrase. Les films que vous avez regardés enfants ont constitué un stock d'images conséquent, qui continue aujourd'hui.
Sur ces espèces de brouées, il y est très sensible. Et c'est vrai que quand je regarde le fonctionnement de photographe ou de cinéaste, je trouve que c'est très important. Où est-ce que votre nœud ou votre nid qui vous transporte, qui vous mobilise, en général, ils ne le savent pas.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une certaine sérénité qui se dégage dans ces photographies en noir et blanc du Piémont italien. Vous-même, vous dites que vous y avez trouvé une forme d'apaisement dans ces vallées très peu fréquentées. Et vous expliquez que ce projet était un peu un contre-pied à une autre nature que vous photographiez aussi, mais cette fois-ci une nature sous influence humaine. Vous êtes allé, par exemple, à Fukushima, Tchernobyl.
Oui.
C'était...
Dans les sous-marins nucléaires, la dissuasion nucléaire, pendant 4-5 ans.
Des environnements assez anxiogènes.
Oui, ça l'est. Alors, on peut être attiré par ça, on peut être attiré par le gouffre, ça c'est sûr. Et oui, je le suis toujours. C'est-à-dire, c'est bipolaire ce machin. Il y a où est le paradis, où est l'enfer, quoi. Et encore, c'est un peu bébête, là, comme réflexion. Mais il y a quelque chose de cet ordre, je trouve, oui.
Et pour documenter cette nature sous influence, je viens de le dire, vous êtes rendu à plein d'endroits différents. Est-ce que... Aujourd'hui, on a l'impression que témoigner de la Terre est devenu très important pour vous. Est-ce qu'on doit y voir une forme d'engagement écologique dans votre travail ?
Non, je suis concerné, militant, malheureusement. Enfin, malheureusement. Ma position, c'est la position plutôt d'un électron libre. Je passe les codes ou je passe les choses qui m'intéressent par le biais qui m'est donné avec la photographie. Dans une discussion, quand j'entends certaines choses, oui, je bouge, je ne suis pas militant. Il y a un ou deux endroits concernant la mer où j'ai signé pour faire partie de ces gens-là. Si ça peut aider, tant mieux. Si c'est très modeste et invisible, tant mieux aussi. Oui, j'ai quand même quelques positions, bien sûr, bien sûr. Et pas seulement par rapport à ça.
Un peu comme votre confrère photographe Marc Riboud, on disait de lui qu'il, pour lui, montrer n'était pas prouvé, mais plutôt archivé, documenté.
Vous avez... Alors, ça, c'est la documentation, oui. Mais c'est sans prouver... C'est plus complexe que ça, le brouet. Oui, quand même, les images restent là. On sait très bien que dans 100 ans ou 50 ans, si ça tient bien, c'est transmis. Ça fait le miroir d'une époque aussi. Et même la nature d'un photographe est à lui-même dans son individualité et le miroir d'une époque. À quoi ils pensaient ces gars-là, en 2024 ou en 1990 ? Qu'est-ce qui les motivait ? Et là, actuellement, je suis en train de donner à un organisme d'État, la MPP, mes 50 années de travaux. Alors, ça, je vois qu'il y a Nadar, tout ça. Bon, on me l'a demandé, j'ai souscrit très vite. Et je trouve que c'est important, au-delà de ma nature, Jean Gomi, l'individu. J'ai dit, attends, la trace de tout ça, si ça peut servir... modestement et d'une façon ou d'une autre pour dire voilà comment il résonnait à la fin du siècle dernier ou au début du siècle maintenant, je veux dire, c'est important. Et sans mettre dedans d'affect du style, je suis le plus grand photographe ou ceci, ce qui n'est pas du tout mon cas dans ma tête. Alors, je ne suis pas trop mauvais, mais je relativise fortement. Là.
Vous avez débuté votre carrière dans les années 70. Vous avez traversé les années Giscard, les Trente Glorieuses, Serge Gainsbourg et j'en passe. Et puis, au tournant des années 2000, vous vivez, comme tout le monde, le boom du numérique. C'est une transition que vous avez adoptée sans trop d'a priori, sans trop...
Ah non, aucun même. Moi, j'étais joyeux comme un gamin avec ça. J'ai vu quand c'était pas bon. Et une certaine nuit, au large de la Mauritanie, sur un chalutier russe, avec un petit appareil que je prenais pour faire ce que j'appelle l'agenda, c'est-à-dire la photo de tous les jours, qui est très importante d'ailleurs aussi, j'ai découvert que le petit numérique, dans la nuit, il passait très très bien.
C'est ça, dans des conditions difficiles.
Non, parce que le numérique cherche de la lumière partout. Il y en a. Alors, ouais. Vous avez une étincelle de lumière sur un filet, il vous illumine tout le filet. Enfin, après, à vous de bien équilibrer tout ça. Et c'est en 2008, je crois, que j'ai commencé à me mettre vraiment avec des appareils numériques. Au même moment, ou dans D'après Nature, je faisais de l'argentique avec un 4,5-6, et lentement j'ai dérivé cette production qui a duré 6-7 ans, c'est-à-dire ça a accompagné toute la révolution de l'argentique au numérique. L'argentique, c'est les appareils avec des pellicules photo pour arriver à ça. Mais vraiment, joyeusement, je me faisais engueuler par certains. En général, des photographes, des grands amateurs qui disaient « mais on ne peut pas être artiste si on ne fait pas de l'argentique ». Là, j'ai envie de hurler de rire, parce que je leur disais « manque de chance, l'un des plus, enfin des photographes que j'estime beaucoup, etc. » Joseph Koudelka, il faisait déjà du numérique. Alors là, c'était « ah ben comment, on déroge à cette chose-là ». Enfin, il y a de la doctrine un peu sotte, là. Il s'agit d'être, non pas souple, j'ai envie d'être intelligent par rapport à ça. Mais je comprends très bien certains photographes de garder, s'ils le font de façon harmonieuse, si ça correspond vraiment à leur être profond en eux, si c'est pour la mode de tout d'un coup revenir à l'argentique. Tous les ans, je vois des modes différentes qui passent.
Oui, c'est différentes techniques, ce sont juste des instruments de travail.
La technologie, il faut la servir, la à servir. Et je leur fais la leçon d'ailleurs toutes les semaines, je les mets bien en face de moi, tous mes appareils photo, je leur dis le patron c'est moi mes amis. Et alors ils ont intérêt d'ailleurs à bien suivre.
Toujours. Mais tout de même, est-ce que le numérique n'a pas changé votre manière de travailler? Parce que par exemple on peut multiplier les prises de vue à l'infini.
Alors il y a la discipline d'avant qui fait que il me reste quand même des sacrés réflexes de « attends, qu'est-ce que tu veux exactement? De quoi s'agit-il ?» Dans un mouvement qui change, dans certaines circonstances, oui, c'est pas de multiplier, on peut se dire, attends, ça avance, ça ne reviendra jamais. Donc t'avances avec le mouvement. Quand tu sens instinctivement le sommet d'une situation photographique qui se passe, la concomitance, la cohérence qu'il y a dedans, etc., commence à faiblir, je stoppe, je freine. Je peux reprendre après, si dans les stages que je fais, j'explique très bien, il y a 4 personnes dans un marché, il y a un chien qui arrive, il y a 2 personnes qui se connaissent, je sais qu'ils se connaissent, ils vont se dire bonjour, je me dis tiens, je prévois, c'est là où les cinéastes documentaires sont très bons, beaucoup c'est des photographes. C'est parce qu'on est forcé de prévoir, pas forcé animalement, comme un chat qui sait que la souris va passer par là, on se dit tiens, il va se passer quelque chose là. Et j'adore ce genre de photos.
Capter l'instant décisif.
Être là comme un chat devant, savoir bondir vite et rester tout calme en même temps. Mais à ce moment-là, être électrique, mais calmement. Être comme à la pêche. On dit, ah oui, il faut être très patient à la pêche. Mais non, j'arrête pas de dire, il faut être très impatient. Mais il faut bien maîtriser son impatience.
La pêche et la photographie.
Ah, pour moi, c'est pareil. Alors, c'est Alain Bergala qui me dit depuis très longtemps, depuis des années, il faut vraiment que tu écrives un livre là-dessus.
Et justement, Alain Bergala, je vais à nouveau citer votre ami critique de cinéma. Alain Bergala explique justement ce que Cartier-Bresson appelait l'instant décisif, c'est-à-dire la capture du moment idéal, finit avec le numérique par disparaître en quelque sorte. Par exemple, avant, quand on prenait, au moment de prendre une photo, tout était fixé au moment du clic de l'appareil. Aujourd'hui, il dit que le centre de gravité des décisions esthétiques s'est déporté au moment de la post-production, du traitement numérique que l'on peut faire de l'appareil photo.
Et en cinéma aussi.
Et au cinéma.
Ah oui, monstrueusement.
Oui, il écrivait d'ailleurs pour le cinéma, mais ça s'applique aussi à la photographie. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Et vous, ça a changé
Un peu, mais en même temps, je me dis, attends, il faut que ça soit techniquement mieux vaut que ça soit bien là. Ça ne changera jamais la spontanéité d'une situation. Et c'est ça la vraie, j'ai presque envie de dire, la vraie douleur d'un photographe d'instantané. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est photographe en partie. C'est insupportable de voir qu'une belle situation qui s'offre à vous, vous la retrouverez jamais. Et en cinéma, c'est pareil pour moi. Je me suis vu dans des situations. J'en veux encore à certaines personnes qui pensent que, bon, non. C'est, alors là, l'ADN d'un photographe et d'un cinéaste, au moins de documentaire, c'est très puissant à ce niveau-là. Ça vous flanque une brûlure au ventre, sur le coup. C'est très sensuel et très animal. Ouais,
presque viscéral.
Ah oui, c'est viscéral. J'ai vu des moments, des crispations au ventre qui t'étouffent, quoi. T'es disant, mais merde, j'ai loupé.
Thank you.
L'iPhone est un instrument et l'un de vos instruments de travail. Vous y faites de très belles photos en noir et blanc. Comment vous obtenez ce noir et blanc ? Est-ce que vous utilisez directement les filtres des couleurs proposées par l'iPhone directement ?
Eh bien, je ne vous le dirai pas. Parce que non, il y a une formule à moi qui est là-dedans. J'ai bricolassé un peu. Je l'ai trouvé à un moment. Au même moment où Xavier Barral sortait son livre sur Mars, qui est un livre formidable. Oui. Et c'est le même jour que tout ça s'est passé dans ma tête. C'est ces moments où vous recevez toute la bénédiction du monde. Quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça correspond au film de Murnau, ça correspond au film de Dans les Zoya, enfin, toute une filmographie des années 30. Et Alain l'avait repéré. Enfin, ça, je l'avais repéré aussi. Et j'ai dit, mince, j'arrive à faire des choses actuelles avec un rapport esthétique ancien. Quand vous êtes dans des situations... J'ai été dans des grands sites industriels et vous faites ça en noir et blanc, par exemple, avec un Polaroid très spécial qu'utilise d'ailleurs Sarah Moon aussi. C'est fabuleux parce que vous décalez les temps. Vous parlez de modernité absolue comme si c'était déjà du futur antérieur. C'est-à-dire que comme si en 2020, vous faisiez des photos de 2040 avec les moyens de 1950. Ça crée un décalage temporel que je trouve formidable. Le travail que je fais sur l'iPhone est un peu de cet ordre, mais ça me permet de déréaliser. C'est pas déréaliser, de mettre dans un... C'est toujours un mensonge, la photo, de toute façon. Il va falloir, et puis on va le comprendre encore plus avec l'intelligence artificielle. Donc c'est une traduction quoi, du monde qui est autour de soi et puis de faire une connexion avec ce qu'on a soi-même en tête. C'est-à-dire reviennent pour moi La Grande Aventure de Suxdorf, des films qui ne sont pas très connus, et le Nanook de Flaherty, des tas de films que j'avais vus enfant. Mais ce n'est pas la base non plus, l'enfance. Il faut grandir avec.
C'est un début.
C'est un constituant du brouet. Du grand brouet qu'on a en soi-même. Et prétendre l'objectivité en photographie, c'est d'une sottise absolue. Sauf, et encore, sauf dans ce livre Mars, qui est quand même assez exceptionnel. Fait par des machines, la NASA, repris par un des plus grands graphistes, Xavier Barral, qui passait des nuits à récupérer les fichiers, recadré dans cette matière incroyable. Et ce projet a démarré, d'ailleurs, quand il était venu à la maison, on avait vu ensemble un livre que j'avais à la maison sur la Lune, sur la surface lunaire. Tu parles que ça a travaillé en lui. Il s'intéressait comme moi à la géologie et aux choses qui venaient de 80, 100 millions d'années.
Oui, beaucoup aux choses du vivant.
Les photos réelles. Quand vous voyez un oursin vieux de 60 millions d'années avec ses radioles, ça m'est arrivé à moi. En cassant pour mon jardin, pour faire les barrières de jardin, à la masse, je casse un silex, paf, l'oursin vieux de 80 millions dans mes mains. J'ai été hyper ému. Et puis pendant 2-3 jours, ça me travaillait vraiment. Ça, c'est les grandes, grandes photos que nous donne le monde. L'épée que j'ai prise aussi pour l'Académie.
On va en reparler.
On en reparlera à ce moment-là.
Bien sûr. Vous avez une communauté assez active sur Instagram, Jean Gomis. C'est une plateforme qui transforme beaucoup les rapports entre le photographe et son public. Nous n'avons jamais vécu dans un monde aussi visuel que le nôtre, mais savons-nous lire pour autant correctement toutes ces images ? Est-ce que l'éducation aux images est un sujet qui vous préoccupe ?
Une phrase que j'aime bien, c'est la phrase qui dit « Mais qu'est-ce que les spectateurs de nos images font dans leur tête avec ?» Très inquiet d'ailleurs, etc. « Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'ils foutent avec ça là-dedans ? Ça peut être terrifiant. » Bref, on ne le sait jamais. Alors l'universalité, de temps en temps, on voit bien qu'il y a des raccords et c'est fait pour ça. Les petits individus, tout d'un coup, se fondent en une seule, pas une masse, une intelligence collective qui peut être parfois très bête. Et puis, il y a surtout les manipulateurs qui peuvent faire de ces réflexes d'individus, de groupements d'individus, des choses pertinentes et belles et de parfaites horreurs.
Vous parliez d'intelligence artificielle il y a quelques minutes.
Oui.
Jusqu'alors, vous avez embrassé assez naturellement les nouvelles technologies, moyens de communication dans votre travail. De quel œil vous voyez justement cette arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de la photo ?
J'entends tellement de déclarations fortes ou effrayées. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de l'humanité qui doit se dépasser un peu elle-même. Je ne suis pas transhumaniste, loin de là. Ça fait partie des horreurs de manipulation qu'on risque de voir venir, qui ont d'ailleurs largement commencé. Ça peut faire partie du jeu pour des esthètes, pour créer leur monde à eux, pour le transmettre. tant qu'ils ne sont pas dans le paraître de mode où je suis malin, je fais ça, et tant que ce n'est pas des gens qui cherchent à accéder au statut social d'artiste.
Mais vous, vous voyez vous servir de l'intelligence artificielle un jour?
Non, non. Pour l'instant, comme un gamin, je n'en ai pas rêvé. Et je sais qu'il y a des choses, Sony, enfin je ne sais pas quoi, une marque l'a rêvé, c'est pour vous, non? Moi, c'est moi qui veux rêver du truc avant. Si tout d'un coup, je me dis, tiens, ça serait pas mal que ça soit là, et ça irait dans le propos qui m'intéresse. Et un propos bien flou en général au début, mais ça, on se constitue doucement avec la photo, avec tous les arts d'ailleurs. Mm. On ne sait pas bien où on va.
Je serais curieuse de savoir ce qu'en pensent vos confrères de l'Académie des Beaux-Arts. Parce que oui, vous avez été élu en 2016 dans cette académie, et la tradition veut, quand on devient académicien, que l'on choisisse une épée. Chaque épée d'académicien a son histoire propre. Et la vôtre, Jean Gomis, vaut vraiment le détour. Est-ce que vous pourriez nous raconter, nous expliquer à quoi ressemble votre épée d'académicien?
Ben, on parlait tout à l'heure de photographies inscrites dans la géologie. L'oursin dont je vous parlais. Et là, depuis l'enfance, je connaissais ces traces de poissons. Alors tout le monde en a, on en trouve. Mais là, c'est pas du tout ça. Il y a 15 000 ans, il y a un gars pas très loin de la Dordogne qui a trouvé un os de renne et qui, comme un photographe d'ailleurs, voit des choses qui sont belles, qui lui sont importantes pour lui, pour sa survie, aussi pour la beauté d'un poisson qui est un saumon qui remonte. Et il l'a gravé dans un os pour en faire un objet utilité. On ne sait pas très bien à quoi correspond. Et c'est un petit machin qui doit faire 23 cm, dans lequel, dans la poignée, on pourrait croire que c'était un poignard. Ce n'est pas du tout ça. On peut imaginer que c'est un racloir d'écailles aussi.
C'est une spatule.
On l'appelle la spatule d'ailleurs. Et je me suis dit, ça correspond exactement à ce que je veux. D'abord, c'est un pied de nez aux épées très orgueilleuses des hommes. Deux. J'en ai parlé à Laurent Petit-Girard, qui tout de suite a dit, ben oui, écoute, Jean. Mais je lui ai expliqué ce qui est secrétaire perpétuel à l'Académie des Beaux-Arts. Et il n'a pas eu d'opposition du tout. Je ne suis pas sûr que 20 ans auparavant, on aurait accepté. Et puis, je lui ai expliqué aussi le truc. Je lui ai dit, tu vois, c'est un engin, enfin une chose qui a été créée par les humains avec la même cible que peut avoir un photographe ou un peintre. 15 000 ans plus tard, la technologie humaine avec le 3D, ce qu'il y a de plus sophistiqué qui fait l'espèce humaine à ce jour, la reproduction 3D, qui est au micromètre, au micromillimètre, on peut faire la réplique exacte de cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a un pont qui s'opère entre ce que je trouve très beau, qu'un arrière, enfin qu'il y a au moins 100 ou 15 000 ans, s'il y a 4 générations par siècle, vous voyez le nombre de grands-pères qu'on a eu entre les deux, a fait, et maintenant, et le respect que j'ai par rapport à lui. Et le retrouver là, au milieu de l'académie, je trouvais ça plutôt très beau. Et quand j'en ai parlé à Yves Coppens...
Qui vous a remis.
Oui, qui me l'a remis d'ailleurs.
Et puis
qui a ce côté potage que j'aime bien par moments, qui est très sérieux aussi. C'était un délice, et pour lui et pour moi, de pouvoir remettre ça. Moi, j'étais timide, il a été formidable quand il l'a fait. Ça a été une séance assez étonnante, je veux dire. Et l'objet surprenait, mais on le projetait en 3D virevoltant dans la nef. Et j'étais assez content de ça. Je me dis, il y a 15 000 ans, ce type-là n'aurait jamais envisagé que ces choses-là soient là. Il doit y en avoir très peu de ces outils-là. Il y en a peut-être 4 ou 5 au monde. Moi, j'en sais rien. Enfin, certainement pas plus que les doigts d'une main. Et ça correspond tout à fait aussi à moi-même, ma perception du monde.
Oui, j'aime bien le parallèle que vous faites avec le métier de photographe. Cette spatule, cette copie de spatule en forme de poisson qui date du paléolithique, je crois bien, concrétise un peu cette envie des hommes d'aspirer en fait, à reproduire la réalité qui les entoure, comme le métier de photographe.
Et là, on peut se poser des questions, quoi, vraiment. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette tension que l'humanité a depuis toujours? Alors, il y a un monsieur, je sais que... Quelqu'un a assisté à ça, qui est venu me dire, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire la beauté? Quelqu'un des sciences. Je lui ai dit, c'est peut-être une histoire de survie aussi, et ça, vous pourriez y réfléchir.
Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer cette très vénérable institution, l'Académie des Beaux-Arts?
Mais pour tout vous dire, c'est un monsieur qui me l'a proposé, je ne savais même pas bien ce que c'était. Parce que comme la plupart des gens, qu'on le veuille ou non, les gens savent que l'Académie des Lettres, qu'on appelle l'Académie française, existe. Puis à part ça, c'est tout. L'Institut, les gens savent pas très bien que ça recouvre 5 académies. Académie des Beaux-Arts, c'est quoi? Même le mot Beaux-Arts, personnellement, j'adorerais que ça s'appelle l'Académie des Arts.
Mais pourquoi ?
Il y a un côté un peu suranné dans Beaux-Arts, pour moi. Pour moi, mais parce que je suis un peu bête. Là, je vais faire sauter au plafond, certes. Mais bon, c'est le gosse qui parle. Là.
En tout cas, vous êtes très investi dans cette Académie des Beaux-Arts.
Oui, je le veux, parce que sinon, ça, c'est absurde. Je le veux à ma hauteur, parce que je n'ai pas certaines qualités qu'ont d'autres. Mais j'ai des qualités que n'ont peut-être pas d'autres aussi. Bref, être la personne dans un groupe, travailler en collégial, c'est ce qui se passait à Magnum, c'est ce qui se passait pour partie à Gamma. J'ai toujours été quelqu'un qui l'individu, non pas au service du groupe, mais qui s'enrichit du groupe et le groupe s'enrichit de l'individu. Ça, c'est important. À l'Académie, on peut le faire, je pense. On le fait de mieux en mieux. Ça a beaucoup changé, grâce à moi, bien sûr. ça a vraiment changé. On voit que les âges, mais il y a les mêmes enjeux de l'espèce humaine, bien sûr, qu'on retrouvera toujours un peu partout, mais ça peut se calmer et tout. Et la façon dont je suis rentré là, c'est parce que j'appartenais aux peintres de marine, ou j'appartiens encore aux peintres de marine.
Au peintre
officiel de la marine. Bon, là aussi. Je le suis devenu parce que pendant 4 ans, j'ai été dans un sous-marin nucléaire. Ils se sont dit, ce gars-là, ça serait peut-être pas plus mal qu'il soit avec nous. Je n'ai pas dit non, donc il y a quand même un choix. Mais il y a eu une réunion avec le haut état-major et les peintres de marine, une certaine année, où j'étais très calme et calmement, je leur ai dit certaines choses qui étaient assez fortes. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'était sur la position, la façon d'utiliser les peintres de marine. Et il y avait un monsieur Goubin, qui était secrétaire à l'époque de l'Académie pour le perpétuel de l'époque, de Haute-Rive. Il était au fond de la salle, lui. Et à la fin de la séance, il vient me voir. J'avais parlé quand même pendant une demi-heure. Un truc d'orateur latin, romain. Et il vient me dire, Jean, est-ce que ça vous intéresserait de rejoindre l'Académie des Beaux-Arts ? Moi, je repartais pour aller à Fécamp. J'ai presque joué Colombo. J'ai dit, bah, écoutez, je vais en parler à ma femme. Non, ça a été assez drôle et assez surprenant. Et en même temps, il y avait quelque chose d'un peu près dans ma tête. Et c'est plus tard que j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai dit oui, mais j'ai mis un petit moment. J'ai dit d'abord, je veux savoir ce que c'est. Quand j'en parle en province ou à beaucoup de personnes à Paris, ils ne savent vraiment pas ce que c'est. Et ça, il faut en avoir conscience. On est tellement imbibé de la connaissance qu'on a, plus ou moins, de l'Académie, qu'on finit par ne pas savoir que les gens ne savent pas. Et ça me terrifie un peu. Ça ne me plaît pas bien. J'aimerais bien que mon petit-fils et ma petite-fille se disent « Bon, papy était là, mais je n'étais pas le plus nigo et il ne se la jouait pas, quoi. Il ne faisait pas le malin avec ça. Pas trop. » Parce qu'on fait toujours un peu le malin, mais à 10%, quoi, pas à 80%. Et j'ai dit oui à un moment, et à cause du comportement de 2 ou 3 personnes que j'avais trouvées formidables.
Au sein de cette oui. Académie ? Qui ça, par exemple ?
Si je dis non, je rentre jaloux les autres. Non, il y en a un, c'est sûr, c'est Paul André. Paul André, l'architecte.
Qui a fait votre discours ?
Malheureusement, il n'a pas pu le faire parce qu'il est mort le soir même. La veille, il était venu. Non, c'est une histoire.
Ah mince, mais qui a fait votre...
Alors, c'est de Carolis qui a lu le discours de Paul André. Il était tellement bien écrit, parce que je le connaissais par son écriture. Lui. C'était un mélancolique. Et j'ai compris aussi qu'il était l'architecte de mes premiers reportages, d'ailleurs, Roissy. Ouais. Enfin, c'est un drôle de chassé-croisé. Il a vécu à Bordeaux, d'une classe sociale modeste, disons. Mais la force du monsieur. Et là où j'ai été conquis, c'est le moment où il a expliqué à tous les copains dans la grande salle qu'il faisait de la peinture. Et il a expliqué, j'ai l'enregistrement à la maison, avec une sorte de rage et de colère, il a dit, attendez, vous ne croyez pas que je suis un vieux là, qui est en train de faire de la broderie à la fin de sa vie. C'est très important et je recommence à zéro. D'abord, c'était vrai, parce qu'on peut le dire, et puis ça peut, et c'était vrai. Et puis toute son attitude est quand même fortement basée là-dessus. Et ça, je veux dire, le terrain. C'est pour ça que j'aime bien les architectes aussi. Ils sont forcés d'être avec une centaine de personnes. Ils sont forcés de ne pas être tout seuls dans leur tête. Même s'il y a un orgueil, il y a ceci et cela, très bien, il en faut aussi. C'est un bon mélange, disons.
Je reviens à l'Académie des Beaux-Arts. L'une de ses missions est aussi de détecter de nouveaux talents, attribuer des bourses. Et en parlant de la jeune génération, le magazine Photo a publié cette semaine un dossier qui met en avant des photographes de l'Académie des Beaux-Arts, dont vous, Jean Gomy. Et dans ce dossier, il est justement question de transmission et de relève. Alors, ça sera ma dernière question. Quels sont les photographes, vos photographes coup de cœur de demain, Jean Gomy ?
C'est pas comme ça que ça se passe dans ma tête.
C'est-à-dire ?
Là, par exemple, j'ai parlé de Vincent Munier. Mais c'est autant pour l'état d'esprit et l'état, la concrétisation qu'il a sur le terrain. C'est pour ça que je me suis permis de dire, lorsque je vais être un peu moins immortel, comme j'ai dit, ça serait pas mal que ça soit ce genre de psychologie, ce genre d'attitude face au monde qui prenne la relève. Pas égotique, mais en même temps fort de soi-même, mais bien ouvert au monde sans être donneur de leçons. Mais bien faire signe, parce que malgré tout, bon, il donne l'envie de la beauté du monde, un peu. On le lui a reproché d'être trop idyllique et tout. Mais forcément, en ce qui le concerne, ça lui correspond totalement. Mais par contre, il paye l'addition pour faire ces choses. Et ça, j'aime bien aussi. Il sait être autonome en Antarctique. Il sait aussi se manifester médiatiquement. Il l'a appris au fur et à mesure, parce que les choses se pressent autour de lui, puis parce que c'est dans l'air du temps, là, en ce moment. La perte de la nature, 50% des espèces qui déglinguent, c'est pas... Je sais bien que l'homme a du mal que nous avons du mal à envisager ça, que notre cervelle n'est pas faite du tout pour ça. Ça, on en parlait avec Yves Coppens et avec d'autres. Bon.
De l'Académie des sciences.
Laquelle l'Académie des sciences va être importante pour d'autres choses dont on parlera pas, le bicentenaire de la photographie bientôt. Et il y a des photographes que j'ai aimés, j'en repère vraiment de ceux par exemple qui arrivent vers Magnum, mais ma vision de la photographie qui peut venir n'est pas très nette en fait. C'est-à-dire, il y a des propositions, c'est comme pour les choses qu'on photographie, il y a des propositions qui se font par l'espèce humaine qui génèrent des jeunes gars ou des jeunes femmes de 20 ans, je les découvre. Et tout d'un coup, je me dis, merde, là, c'est par là. Et ça, c'est formidable. On appelle ça des coups de cœur. C'est un peu cheap comme mot, d'ailleurs. C'est des coups de... Je fais corps. Je me dis, tiens, s'il y a un coup de main à filer, c'est quand même là, il me semble que c'est pas mal de faire. Vincent, il n'a pas besoin que je lui file de coups de main. On va probablement se rencontrer. Mais ça faisait 10 ans, 15 ans que j'avais repéré comment il fonctionnait, bien avant qu'on le connaisse. Et puis j'aime bien la façon dont il transmet, je crois qu'il est en train de faire un film là-dessus, sur la transmission avec son papa qui très modestement lui a appris à faire des photos dehors, à aimer la nature.
Eh bien on invite les auditeurs à découvrir son...
Ah ben je crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent.
et la vôtre bien sûr, Jean Gomi, un grand merci pour ce témoignage. On va vous laisser vous préparer puisque aujourd'hui est un grand jour, on installe une de vos consœurs à l'Académie des Beaux-Arts, Annie Leibovitz. Vous la connaissez ?
Non, pas vraiment. Je connais son travail. Elle est immensément connue. Elle a beaucoup travaillé dans les milieux très célèbres de la planète. Elle a sa façon de voir sa photographie, de faire sa photographie. Elle sera académicienne à titre de membre étranger.
Voilà, c'est un statut.
Ce qui est pas mal parce que ça permet effectivement de faire venir vers soi et de rayonner vers l'extérieur, qui n'est pas totalement imbécile. Ça.
Et bien, je vous souhaite une très bonne coupole. Et vous concernant, donc, je rappelle qu'on peut se rendre à la galerie Sit Down à Paris pour admirer donc, D'après Nature jusqu'au 13 avril prochain. Une série photo à retrouver également en livre aux éditions Xavier Barral.
Oui.
Vous êtes donc à la une de l'édition du printemps du magazine photo à retrouver en kiosque. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en actualité ?
Sachant qu'elle est là. Oui. Non, dans les plans que j'ai dans les 3 ans qui viennent, c'est effectivement qu'on arrive à faire un bicentenaire qui soit au moins national, un bicentenaire de la photographie. Parce que c'est une révolution fabuleuse dans l'espèce humaine, je veux dire. Et pas uniquement parce qu'on sait cadrer l'aspect artistique, je veux dire, la prise qu'on puisse graver sur un os de renne, comme a fait l'autre, mais qu'on le fasse sur des plaques métalliques, et maintenant l'implication de la photographie dans l'espèce humaine est monstrueuse. Même. Et là, il y a un gros travail, et des émissions d'idées qui se font de plus en plus sur ça, justement. Sur Damasio, dans un livre, Les Furtifs, et dans d'autres œuvres, qui, c'est pas de la fiction d'ailleurs, qui dit, si au XIXe siècle, il était très important de décrire très très précisément les personnages, c'est parce qu'il y avait pas, il y avait juste les peintures et le début des photos. Mais maintenant que c'est fait, la littérature aurait tout à fait importance à vraiment faire que la balance des phrases et les mots, la musique, le son reviennent vraiment là. C'est-à-dire qu'il y a un primat de l'œil qui est un peu trop fort. Ça me paraît assez évident en ce moment. Parce qu'il y a une gabegie. Maintenant, c'est des images partout, photographie. Enfin, il y a un côté... effrayant dans l'image, voilà. Alors, surtout avec les machines dont on parlait tout à l'heure. Ceci dit, la machine se substitue à la qualité au moins technique facilement. Il faut être vraiment très bête pour louper une photo maintenant et même être un peu génial.
En tout cas, on ne se lassera pas des vôtres, Jean Gomi.
Eh ben, vous êtes gentil.
Et un grand merci encore une fois d'être venu au studio.
Merci.
Canal Académie.